que ve shooting de jazz.
Digo de Radio France International.
Accent du monde.
Philippe Le Caplain. Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI, votre radio dans toute sa richesse et sa diversité. Ce soir, pour la rédaction vietnamienne, Tran A Tran.
Tan Chiao, Philippe.
Pour la rédaction d'anglais, David Coffey.
Bonsoir.
Et Alireza Manavzadeh de la rédaction Persane.
Durut Bachemo.
Bonsoir à vous tous. Accent du Monde, cette émission sera tout entière consacrée à ce qui se passe en Ukraine, avec ses répercussions dans le monde. Après 3 semaines de guerre, plus de 3 millions d'Ukrainiens ont fui les conflits, les combats. La moitié de ces gens sont des enfants, selon l'UNICEF. Alireza, la solidarité que leur témoignent en ce moment les Européens facilitera leur intégration dans les pays d'accueil.
Et ça dépend de leur nombre et des pays qui les accueillent. Il y a 2 jours, le nombre total de réfugiés fuyant le conflit s'est levé à 2 800 000 personnes. La Pologne en a accueilli plus de 2 millions. Selon les estimations des Polonais, chaque jour, environ 100 000 personnes traversent la frontière. Et il n'y a pas au sein de l'Europe un partage équitable quant à leur accueil. Proportionnellement au nombre très élevé des réfugiés, il faut avouer que la France en a accueilli une petite poignée.
Alors soyons précis, combien sont arrivés en France depuis l'invasion de la Russie? Quel accueil leur est réservé?
En fait, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a assuré que les capacités d'accueil seront trouvées. Quant aux Ukrainiens arrivés en France, leur nombre s'est levé il y a 2 jours à 17 000, qui reste un nombre minime. Le ministre de l'Intérieur a dit que la France peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes. On verra si ce ne sont pas juste des mots. Écoutons ce qu'il a dit il y a 2 jours.
Le président de la République nous a donné un objectif dans les jours qui viennent, jusqu'à 100 000 places de possible en France, ce que nous faisons avec Marlène Schiappa dans les heures et jours qui viennent.
Gérald Darmanin, donc.
Ce sera un accueil parfait si on en croit les propos du ministre. Écoutons-le.
Je rappelle que c'est accès aux soins sans jour de carence, possibilité de travailler immédiatement, scolarisation des enfants bien évidemment, hébergement. Et lorsqu'on ne peut pas travailler, il y a beaucoup de femmes seules qui élèvent beaucoup d'enfants. On les a vus hier avec le président de la République. C'est une aide sociale qu'on appelle l'ADA.
Oui.
Mais la raison et surtout l'expérience nous obligent à être prudents quant à la réalité des politiques d'accueil qui vont suivre sur le long terme. Concernant leur intégration, oublions l'enthousiasme initial. Il n'est pas honnête de leur promettre monts et merveilles. Se réfugier dans un pays ne veut pas dire une intégration rapide. Dans les pays occidentaux, les immigrés d'Europe de l'Est n'en subissent pas moins de discrimination sur le marché du travail.
Cette guerre est donc aussi une crise humanitaire, Tran A Tran. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, alerte sur une hausse des besoins en Ukraine, dans les pays voisins également. La France octroie 300 millions d'euros pour aider ses déplacés et prend un certain nombre de mesures pour soulager les pays voisins de l'Ukraine, tels que la Pologne ou la Moldavie, qui reçoivent le premier flux de réfugiés. Et puis, Tran A Tran, le Japon. Le Japon prend sa part, ouvre ses portes aux réfugiés ukrainiens.
Oui, le Japon, à l'autre bout de la planète, d'habitude est plutôt réticent à l'accueil des réfugiés et cette fois-ci se dit prêt par solidarité avec l'Ukraine. Et Tokyo a passé des paroles aux actes. Dans la semaine, une 50aine d'Ukrainiens ont trouvé asile au Japon et selon un sondage récent au Japon, il y aurait jusqu'à 85% de la population nippone qui serait prête à se mobiliser pour ces déplacés de guerre. Il faut savoir qu'il y a environ 2000 Ukrainiens qui sont établis au Japon. Mais en parlant des réfugiés, je voudrais aussi parler des milliers de Russes qui ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe en Ukraine. Ce sont des journalistes, des artistes, des cinéastes, des scientifiques. Ils ont commencé à fuir en masse la Russie. Le cas le plus remarquable serait peut-être celui de Olga Smirnova, l'une des ballerines stars du Bolchoï. Elle a quitté la Russie pour rejoindre le ballet national du Pays-Bas en raison du conflit en Ukraine. C'est tout un symbole. Les Russes, ils ont fui parce qu'ils se sentent en danger dans leur propre pays.
Faut-il rappeler que le Parlement russe a voté l'adoption de nouveaux amendements au code pénal. Désormais, toute manifestation contre la guerre relèvera du crime de haute trahison. C'est la raison pour laquelle certains préfèrent s'en aller plutôt que de risquer d'aller en prison, comme cette journaliste qui, à la télévision, avait brandi donc ce panneau en disant non à la guerre. Dans un premier temps, elle est condamnée à une simple amende. David Coffey, l'une des justifications de la Russie pour envahir l'Ukraine, c'est que l'Ukraine voulait intégrer l'OTAN à cause de l'annexion de la Crimée en 2014. L'OTAN, qui comme par hasard a prévu des exercices militaires avec la Géorgie qui elle était engagée dans un conflit avec Moscou au sujet des régions sécessionnistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie, là ça nous remonte à 2008. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en plus ?
Mais écoutez, il est certain que cela va faire l'effet d'un ballon de plomb avec Vladimir Poutine sur l'offensif et compromettre les aspirations à l'adhésion à l'Union européenne d'anciens États soviétiques tels que la Moldavie, l'Arménie, la Géorgie elle-même. Au début de la semaine, Philippe, j'avais rencontré Serge Strubantz, un consultant en sécurité internationale de l'Institut pour l'économie et la paix basé à Bruxelles, et je lui demandais si c'est vraiment maintenant le bon moment pour l'OTAN de commencer à jouer à la guerre avec Tbilissi.
I mean, we need to understand that Georgia, even Moldova, are NATO partners and therefore can do joint exercises.
Yes.
Just like Russia is
que
doing
vous a dit Serge Strobantz.
Alors, il dit qu'il pense que nous devons comprendre que la Géorgie et la Moldavie sont déjà des partenaires de l'OTAN et peuvent donc faire des exercices conjoints. Tout comme la Russie fait des exercices conjoints avec des pays d'Asie centrale, avec la Chine et d'autres partenaires. Cela a été planifié, selon lui, depuis des années et on continue à l'heure actuelle.
Et derrière tout cela, est-ce que c'est la confrontation finalement de deux visions du monde ?
Mais écoutez, d'un point de vue de bruxellois, on peut dire tant pour l'OTAN et pour l'Union européenne, lorsque vous regardez l'Est, il est clair qu'il y avait un vide au sein des nombreux pays différents lorsque le mur est tombé au début des années 90, et tous ces pays pouvaient déterminer eux-mêmes les alliances qu'ils voulaient construire ou le groupe dont ils voulaient faire partie. Lorsque nous regardons tous ces pays, ils ont tous demandé d'adhérer à l'OTAN en premier lieu, et une fois la sécurité assurée, ils ont ensuite demandé à adhérer à l'Union européenne pour le développement économique et social.
Alors que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, tous ces pays se tournent vers l'Ouest, avec une volonté, c'est de devenir plus prospère et plus sûr.
Effectivement, personne ne s'est retourné vers l'Est. Personne ne s'est tourné vers Moscou s'il n'était pas contrainte. C'est une chose. L'autre chose, comme les pays qu'on a mentionnés, c'est ce qui reste de la zone, entre guillemets, tampon entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest d'Europe. Donc cette zone tampon était beaucoup plus grande avant, effectivement, pendant la guerre froide. Mais cette zone tampon s'est maintenant réduite au strict minimum du point de vue de Moscou. Vous savez que je vous ai expliqué, la sécurité est importante, le territoire, les frontières, etc. Et les deux blocs ont veillé à ce qu'il n'y ait aucune menace à la frontière occidentale de la Russie, alors que le strict minimum était la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Finlande, pour ainsi dire. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2008 en Géorgie, un conflit gelé. Vous prenez juste une partie du pays, vous gelez le conflit. La même chose en Moldavie avec la Transnistrie ensuite. Et en Ukraine, c'est plus ou moins la même chose.
Oui, puisque l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. L'Ukraine était finalement une zone tampon avec la Russie. Sauf que l'Ukraine voulait rejoindre l'OTAN. Donc Vladimir Poutine s'est inquiété finalement de devoir avoir une frontière commune avec l'OTAN. Hein. Si on imagine une carte, ça nous donne à peu près ça.
Tout à fait.
Pour l'instant, David, rien ne s'est produit en Finlande.
Ah ben heureusement non, mais la technique de ces conflits entre guillemets gelés vise à s'assurer que la dernière partie de la zone tampon subsidera en fait, hein, car ces pays, parce qu'ils ne sont pas engagés dans une forme de conflit, ne peuvent automatiquement ni accéder à l'OTAN, ni à l'Union européenne en raison des clauses de l'article 5 de l'OTAN ou l'article 42,5 de l'Union européenne. Et ça veut dire défense collective ou assistance mutuelle.
Que l'on pourrait résumer par ce dicton, un pour tous, tous pour un. C'est ça finalement
c'est
l'article 5
les trois mousquetaires,
de l'Alliance Atlantique.
Exactement.
Qui sont quatre en fait.
Qui sont quatre. Il y a un dosh, exactement.
Il y a donc des alliances, il y a les aides, Alireza Manavzadeh. Est-ce qu'on assiste à une une solidarité politique à géométrie variable.
C'est vrai qu'en comparaison avec d'autres conflits dans le monde, les Européens se sentent plus concernés par cette guerre qui frappe leur continent. C'est peut-être la seule raison de leur fraternité avec les Ukrainiens. Ils ont le droit d'avoir un penchant pour les réfugiés provenant d'un pays européen. Mais c'est consternant d'entendre un journaliste dire « On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures, qui ressemblent à nos voitures et qui essayent juste de sauver leur vie. » Et c'est nauséabond d'entendre le Premier ministre bulgare dire « Ce ne sont pas les réfugiés auxquels nous sommes habitués. Ces gens sont des Européens. Ils sont intelligents. Ils sont éduqués. » Mais on oublie qu'il y a dans des pays européens une forte augmentation d'incidents visant les citoyens russophones. Je crois que les Russes sont plus proches des Ukrainiens que ces derniers ne le sont des Européens. Au Royaume-Uni, un parlementaire conservateur a même suggéré que tous les Russes devraient être expulsés. En fait, ce genre d'attitude et de comportement est propre à des situations de crise où les esprits sont enflammés. Mais je crois qu'un journaliste ou un homme politique doit pouvoir maîtriser ses émotions.
Poursuivons notre tour du monde avec vous, Trana Tran. D'une manière générale, l'Asie reste à distance de ce conflit.
Oui et non. Si le Japon s'aligne tout de suite sur les positions occidentales pour imposer les embargos vis-à-vis de la Russie, eh bien, quant à elle, la Chine, elle soutient plutôt la politique russe. Elle soutient la Russie d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Cependant, plus le conflit dure, ça fait 3 semaines déjà, l'inquiétude est grandissante au fur et à mesure que le nombre de morts augmente. Pékin a peur que les conséquences des sanctions occidentales sur la Russie impactent sur ses propres intérêts économiques ou stratégiques.
Et d'ailleurs, juste au moment où nous parlons, il faut savoir qu'il y a eu cet entretien entre Xi Jinping et Joe Biden. Il a duré près de 2 heures. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur la teneur de cette rencontre qui s'inscrit exactement dans ce que vous venez de dire. L'Inde, dans tout cela.
Oui, alors un autre géant de l'Asie est dans une position assez inconfortable parce que New Delhi est très lié à la Russie, notamment très dépendant de la Russie de l'armement. L'Inde est un des plus gros clients de l'industrie d'armement russe, avec un achat de plus de 10 milliards de dollars sur la période de 2016-2020, selon le rapport du CIPRI, c'est-à-dire l'Institut international de recherche sur la paix à Stockholm. Quant à l'Indonésie, le président tournant du groupe G20, Jakarta redoute que le sommet de Bali prévu en octobre prochain ne tourne au fiasco. Alors, la question c'est quelle attitude faut-il adopter envers la Russie, membre du G20? Faut-il l'exclure de ce club des 20 pays les plus développés du monde?
Et puis il y a une autre dimension dans cette guerre, c'est celle de l'information, de part et d'autre, beaucoup d'intox, comme on dit, de fake news.
Aussi, effectivement, du côté russe, par exemple, la télévision, les médias officiels évoquent le conflit ukrainien, mais avec les mots du Kremlin. On ne parle pas de guerre, mais d'une opération spéciale de libération. Pas d'image non plus sur les attaques russes sur les villes ukrainiennes. Côté ukrainien, depuis le début de l'invasion, on voit le président Zelensky partout. On voit des images des chars russes capturés. On voit également des images des villes et des quartiers ukrainiens bombardés par les Russes. Dans cette guerre de l'information, les réseaux sociaux jouent un rôle clé. Mais on sait aussi que sur le terrain, pour que cette guerre ne soit pas celle des fake news, les journalistes ukrainiens et internationaux sont sur le terrain. Depuis le 24 février dernier, au moins 5 journalistes sont tués, dont Pierre Zarzewski, un caméraman franco-irlandais de la télévision américaine pour la chaîne Fox News. Une enquête a été ouverte en France pour faire toute la lumière sur la mort de Zarniewski pour atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international et attaque délibérée contre une personne civile qui ne participe pas directement aux hostilités.
Et puis, concernant toutes ces fausses informations, alors pas la mort de nos confrères, bien évidemment, mais les autres, je vous invite à écouter les dessous de l'Infox avec Adrien Delgrange qui revient encore une fois cette semaine sur tout cela, sur la manière de se méfier de tout ce qui circule, notamment sur les réseaux sociaux. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
De Paris, RFI,
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Et continuons de nous intéresser à l'Ukraine sous des angles différents et particuliers avec les rédactions en anglais, en persan et en vietnamien de Radio France Internationale. David Koufi, de la rédaction anglophone, comme vous êtes d'origine irlandaise, faisons le point sur ce qu'un petit pays comme l'Irlande agit et contribue afin que prenne fin la plus grande crise militaire en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Mais écoutez, pour un pays de plus ou moins 5 millions de personnes, l'accent de Dublin est sur la manière dont l'Irlande peut aider et être plus proactif, tant du point de vue politique que du point de vue humanitaire. Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, est actuellement en Pologne pour renforcer le soutien du pays pour accueillir de réfugiés et l'élargissement des sanctions contre la Russie. L'Irlande aussi invoque les ambitions de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Mais ce qui est le plus important pour Dublin est le nombre extraordinaire des réfugiés qui sont maintenant en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, Slovaquie, etc., etc. Et vous pouvez imaginer, les liens entre Varsovie et Dublin sont énormément forts. Bon, c'est deux pays qu'on peut appeler vachement très catholiques aussi. Mais pour l'Irlande, c'est un fardeau que les Irlandais doivent partager en tandem avec les autres pays de l'Union européenne.
Alors, de quelle manière l'Irlande vient précisément en aide aux Ukrainiens en ce moment ?
Mais écoutez, Dublin, d'ores et déjà, a supprimé l'obligation de visa pour les Ukrainiens pour venir en Irlande. On pense que d'ici la fin du mois de mars, le nombre d'Ukrainiens en Irlande se situera entre 18 et 21 000 personnes. Et ce nombre continuera à augmenter si la guerre continue. Mais la question clé est de savoir si cet accueil peut être maintenu dans les semaines à venir, car ce chiffre de 2 millions pourrait devenir 4 millions au cours du prochain mois.
On en est à 3 millions.
On est à 3 millions d'ores et déjà. Bon, écoutez, bon, voilà. Donc ça ne cesse pas à augmenter. Et c'est là où le reste de l'Union européenne doit être généreux avec une réponse collective. Il ne faut pas que les pays limitrophes non plus de l'Ukraine soient soumis ou même abandonnés aux pressions extraordinaires, liées à la gestion de ce nombre de personnes.
David Koffé, par ailleurs, il y a l'idée de l'envoi de soldats irlandais, alors pas pour faire la guerre, mais pour aider à recevoir ce flux de réfugiés.
Oui, pour un pays qui est neutre avec véhémence, c'est s'il est utile d'envoyer une équipe de forces de défense vers l'Est, ce sera fait, selon le ministre, pour enregistrer les réfugiés, pour gérer la logistique à la frontière et pour gérer les systèmes de transport. Et bien sûr, Dublin veille sur les engagements des pays comme, bon, bien sûr, la France et l'Allemagne avec Vladimir Poutine. Écoutons le ministre des Affaires étrangères d'Irlande, Simon Coveney, depuis la Pologne ce matin.
Well, I mean, I think a number of individual leaders have maintained the relationship with President.
Là, il dit qu'il pense qu'un certain nombre de dirigeants ont entretenu des relations avec le président Poutine et en particulier avec le chancelier Scholz et le président Macron. Ils ont eu des conversations très longues tout au long de cette guerre avec le président russe et évidemment, ils le poussent aussi fort qu'ils le peuvent pour un cessez-le-feu, pour ouvrir des couloirs humanitaires afin de permettre aux gens de quitter les villes qui sont assiégées en ce moment et qui sont pulvérisés chaque soir, selon lui, par des tirs d'obus, qu'il décrit comme un crime de guerre visant les civils. Mais ses efforts, jusqu'à présent, n'ont pas couronné le succès, dit Coveney.
L'Irlande s'est proposée de venir à intervenir avec l'Iran l'année dernière en utilisant la présence au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce qu'il y a la possibilité que l'Irlande, pays neutre, intervienne pour obtenir un cessez-le-feu en Ukraine ?
Et la réponse est oui, effectivement. Écoutons, ce que Coveney avait dit sur ce sujet ce matin. Oui.
I mean, look, we'd be more than willing to do that, whether we have the capacity to do it.
Qu'explique le ministre irlandais des Affaires étrangères?
Alors, Philippe, il dit que l'Irlande est plus que disposée à le faire si nous avons la capacité de le faire et si la Russie le veut. Il dit que c'est difficile à savoir. Il dit qu'il y avait une réunion de Conseil de sécurité ce matin et la Russie a proposé ce qui semble être une émotion assez cynique, selon lui, par rapport à la protection des civils dans la guerre en Ukraine alors qu'elle continue à les bombarder. Il raconte, par contre, qu'il est difficile de savoir qui le Kremlin va écouter en ce moment. C'est pourquoi il faut que l'ONU essaie de faire la pression sur la Chine, l'Inde et la Turquie afin d'utiliser l'influence qu'ils ont à Moscou, car ils ont clairement plus d'influence que les autres pour essayer de mettre fin à ce qu'il dit, à ce qu'il appelle cette folie.
Il souligne également que l'Irlande cherche à apporter sur toutes les plateformes une contribution constructive à l'instauration de la paix.
Absolument. Bon, selon le ministre des Affaires étrangères d'Irlande, il est présent dans tous les organes, le Conseil de sécurité de l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU, au Conseil des droits de l'homme et au Conseil de l'Europe. Et c'est ça, ce petit pays se fait entendre pour essayer d'assurer qu'un cessez-le-feu puisse être instauré, dès que possible. Donc, si l'Irlande peut être intermédiaire, on est toujours prêt à le faire.
David Coffey, de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. Et maintenant, c'est à vous, Tranatran de la rédaction vietnamienne. Revenons un petit peu en arrière pour comprendre les raisons de l'abstention du Vietnam lors du vote. C'était le 1er mars dernier à l'ONU. C'était un vote exigeant que la Russie cesse sa guerre en Ukraine. Et donc, les Vietnamiens, le gouvernement vietnamien s'était abstenu.
Vous venez de le rappeler, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution non contraignante. Le texte a été approuvé par 141 pays, 5 pays ont voté contre et 35 se sont abstenus, dont le Vietnam. Depuis le début du conflit, Hanoï se contente d'appeler toutes les parties au dialogue, à choisir la paix. Pour comprendre l'abstention du Vietnam lors du vote à l'ONU sur nos antennes, Lee Hong Hiep, un chercheur à l'Université de Singapour, met en avant des liens historiques entre Hanoï et Moscou. Écoutons-le.
Trước đây, Nga và Liên Xô đã hỗ trợ Việt Nam rất là nhiều trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, cũng như là cái giai đoạn 1970-1980 khi ở Việt Nam.
Que vous a dit Long Hong Yep?
Il nous a expliqué que d'abord la Russie d'aujourd'hui et l'Union soviétique par le passé a fortement épaulé le Vietnam dans la guerre contre les Américains. Puis dans les années 70-80, lorsque Hanoï traverse une période de crise avec Pékin et sous l'embargo américain, eh bien, Moscou a toujours été là. Ensuite, à l'heure actuelle, la Russie est un partenaire important pour des livraisons d'armes. Il faut savoir que 80% des importations d'armes et d'équipements militaires du Vietnam proviennent de la Russie. La Russie est également un partenaire de premier plan en matière d'énergie. Les deux pays ont des projets d'exploitation de pétrole et de gaz en mer de Chine du Sud.
Pas étonnant donc que le Vietnam veuille préserver ses bonnes relations avec la
Russie. Tout à fait. On comprend que dans ces circonstances, le Vietnam veut préserver ses relations avec Moscou, d'autant plus qu'il y a entre 60 et 80 000 de Vietnamiens résidant en Russie à l'heure actuelle. Historiquement, l'URSS a reconnu le régime de Ho Chi Minh depuis 1950, c'est-à-dire que lorsque le Vietnam faisait encore partie de l'Indochine française. Et puis à l'heure actuelle, les coopérations bilatérales sont nombreuses, tant sur le plan culturel que commercial. La Russie est située au 25e place des investisseurs au Vietnam. Et puis dans le sens inverse, il faut rappeler que en matière d'armement, le Vietnam est quand même le 5e client de la Russie.
Bon, alors, au bout du compte, quelle perspective pour les relations russo-vietnamiennes?
Eh bien, à court terme, comme pour tous les autres partenaires de la Russie, je dirais que c'est plutôt... On rentre dans une période de turbulence. Notre invité, Lee Hong Hiep, de l'Université de Singapour, est un peu plus explicite.
Dans le temps, ví dụ là việc mua vũ khí từ Nga,
Quelle est son analyse?
Eh bien, selon lui, le Vietnam va connaître des difficultés dans les relations avec la Russie à l'avenir, notamment en matière d'importation et d'exportation d'armement. Le Hanoï devrait aussi respecter donc, les sanctions imposées par les États-Unis en particulier et par l'Occident plus généralement à la Russie. À l'avenir, Washington sera forcément plus vigilant dans les contrats d'armement entre Hanoï et Moscou. Quant aux coopérations dans l'industrie pétrolière, les difficultés sont aussi à prévoir par des mesures de sanctions, mais aussi par le fait que la Russie n'a plus accès au réseau bancaire international, le fameux SWIFT, comme nous le savons. J'attire votre attention sur un point, c'est que la présence des compagnies russes dans les projets d'exploitation gazière et pétrolière avec le Vietnam en mer de Chine du Sud est également un élément de garantie important pour le Vietnam face aux pressions chinoises, parce que nous savons que Pékin a l'habitude de harceler les compagnies vietnamiennes ou malaisiennes dans les zones où unilatéralement, la Chine affirme que ces zones-là appartiennent à son périmètre de souveraineté, c'est-à-dire à peu près 90% de la superficie de la mer de Chine du Sud.
C'était Tran La Tran de la rédaction vietnamienne. Ali Reza Manavzadeh, de la rédaction persane, on retrouve dans cette crise, hein, au bout du compte, le traditionnel clivage entre Russes et Américains. Et dans son bras de fer contre les États-Unis, Vladimir Poutine a pris en otage le nucléaire iranien, on l'évoquait tout à l'heure, qui est une question épineuse, hein, pour Joe Biden.
Vous savez que la Russie fait partie du groupe des six grandes puissances impliquées dans les négociations sur le nucléaire iranien. On sait que ces négociations ont fini par déboucher sur un accord qui attend d'être définitivement approuvé et qui prévoit le retour des États-Unis et de l'Iran dans l'accord de 2015 en échange d'une levée des sanctions. Mais le 5 mars, en échange de son approbation, la Russie a demandé aux Américains des garanties que leurs sanctions contre elle, à cause de l'Ukraine, n'affecteront pas sa coopération avec l'Iran dans le domaine du nucléaire civil, surtout pour ce qui est de la centrale nucléaire de Bouchehr. Bien, le 15 mars, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a assuré avoir obtenu des garanties écrites. En fait, en exigeant des garanties de la part des États-Unis, au moment où ce nouvel accord allait être annoncé, la Russie essayait de le bloquer.
Alors, pour quelle raison? Puisque jusqu'à présent, elle se montrait constructive.
En fait, elle visait deux objectifs. Elle voulait d'abord se servir de ce levier pour obliger les Américains à atténuer leur intransigeance concernant l'invasion de l'Ukraine. La Russie voulait aussi, et c'est le plus important, freiner l'afflux du pétrole iranien sur les marchés après la levée des sanctions. On a même constaté un ralentissement de la hausse du prix du pétrole dû précisément à l'arrivée prochaine de ce brut iranien.
Et alors, quelles ont été les réactions?
Les Américains ont jugé les exigences russes hors sujet. Ils ont même envisagé un accord provisoire avec l'Iran. La France a qualifié l'attitude de la Russie de prise d'otage. En Iran, les exigences russes et la complaisance du gouvernement envers l'invasion de l'Ukraine ont suscité un torrent de critiques, même parmi les modérés du régime.
Et c'est peut-être pour cette raison que le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Moscou.
Exactement. Et il s'est entretenu avec Lavrov. Et c'est lors d'une conférence de presse conjointe que le ministre russe a révélé l'obtention des garanties écrites. Quant au ministre iranien des Affaires étrangères, je vous invite à écouter ses propos.
Que dit-il?
Il dit que la Russie ne sera aucunement un obstacle à la conclusion d'un accord. Il n'y aura aucun lien entre les événements actuels en Ukraine, sur lesquels je m'exprimerai aujourd'hui, et les négociations de Vienne. Par conséquent, compte tenu des entretiens que j'ai eus avec M. Lavrov, c'est le ministre iranien qui le dit, la Russie, fidèle au rôle positif qu'elle a joué pendant ce cycle de négociations, restera aux côtés de la République islamique jusqu'à la fin pour parvenir à un accord convenable, solide et durable.
C'était Ali Reza Manavzadeh, la rédaction Personne. C'était Action du Monde, réalisé par Jean-Philippe Thury, ce soir sur Radio France Internationale.